Radio Kapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. Première rencontre mardi entre le président de la République et le nouveau chef de la MONUSCO. Pour James Swan, cet échange lui a permis de mieux comprendre les attentes vis-à-vis de la MONUSCO dans le contexte actuel. Il salue l'engagement de Félix Tshisekedi en faveur des efforts diplomatiques pour résoudre la crise dans l'est du pays. Une campagne de vaccination de 3 jours contre la poliomyélite est en cours depuis hier mercredi dans les 18 zones de santé du Maniema. Son but est de vacciner au moins 600 000 enfants de 0 à 59 mois après la découverte de nouveaux cas de cette maladie. Et puis les invités à Dialogue entre Congolais se sont penchés hier sur le naufrage qui a fait 30 morts lundi sur le lac Tanganyika à quelques kilomètres de la ville de Kalemie. Vous le suivrez dans cette édition. Bienvenue à cette édition d'information. Voilà, avant de développer les différents titres que nous avons évoqués, nous allons d'abord dans la province du Sankuru, le Sankuru qui a un nouveau gouverneur. Jules Lodi a été élu hier mercredi avec 15 voix sur 25 à l'issue du scrutin organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, secrétariat provincial de Lusambo. Explication avec Esther Dalafina.
Gilles Lodi retrouve la tête de l'exécutif provincial du Sankuru. Lors du vote tenu ce mercredi, il a obtenu 15 voix sur le 25 que compte l'Assemblée provinciale du Sankuru. Son challengeur, Joseph Lumu, a recueilli 10 voix, tandis que les autres candidats n'ont obtenu aucun suffrage. Dans les rues de Lusambo, les réactions sont partagées. Certains habitants espèrent que le nouveau gouverneur relèvera enfin les défis structurels de cette province enclavée à travers la construction d'infrastructures publiques, la réhabilitation des routes d'intérêt provincial et l'amélioration des conditions de vie des populations. D'autres restent sceptiques, rappelant les chantiers annoncés lors de son précédent mandat, notamment des premières pierres posées pour des infrastructures qui n'ont jamais vu le jour. Gilles Lodi n'est pas un inconnu sur la scène politique. Il a déjà été élu député national, député provincial, sénateur et occupe désormais de nouveau les postes de gouverneur du Sankuru. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Comme annoncé en titre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu mardi le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan. Cette rencontre de prise de contact s'est tenue à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Selon la présidence, les échanges ont porté sur la mise en œuvre du nouveau mandat confié à la MONUSCO par le Conseil de sécurité, notamment à travers les résolutions 2808 et 2773. Que retenir Hassam Zati d'abord de ces résolutions et de cette rencontre justement?
Ces deux résolutions chargent la MONUSCO d'apporter un appui opérationnel aux mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu conclu à Washington et à Doha. Objectif, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et démanteler les administrations parallèles dans les zones sous occupation. Cet échange m'a permis de mieux comprendre les attentes vis-à-vis de la MONUSCO dans le contexte actuel, déclare James Swan. Il se félicite également de l'engagement du président de la République en faveur des efforts diplomatiques et de sa volonté de privilégier une issue non armée à la crise dans l'est du pays. Le chef de la MONUSCO souligne que les avancées diplomatiques doivent désormais produire des effets concrets sur le terrain au bénéfice des populations. Enfin, il réaffirme les priorités de la mission. Renforcer la protection des civils et appuyer les institutions de l'État en RDC. Pour sa part, la MONUSCO indique que cette audience avec le chef de l'État marque les débuts d'une série d'échanges que le nouveau représentant spécial entend poursuivre avec les principales institutions congolaises.
Merci, Hassam Zati. La République démocratique du Congo poursuit les efforts pour redynamiser sa force navale et consolider sa position géostratégique dans le trafic maritime en Afrique centrale. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, représente le pays à la première réunion plénière du groupe des Amis du Golfe de Guinée. Cette rencontre commencée hier se clôture aujourd'hui 16 avril à Paris en France. Elle planche sur la sécurité maritime en Afrique. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces assises de deux jours, organisées sous forme de panel, évaluent les enjeux liés à l'intensification du trafic maritime dans les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre multilatérale réunit les ministres en charge de la défense, de la sécurité et de la sûreté maritime des États africains et européens dans le but de renforcer la coopération en matière de sécurisation des espaces maritimes. Dans son allocution, le ministre congolais de la Défense nationale, Guy Kabombo Moyanvita, a réaffirmé l'engagement de la RDC à mettre en œuvre les objectifs du code de conduite de Yaoundé qui vise à renforcer la sécurité maritime dans les eaux africaines. Il a identifié trois axes prioritaires dont le renforcement de la coopération institutionnelle à travers la mise en place d'une liaison permanente entre la RDC et la coordination des pays amis du Golfe de Guinée. Cette démarche vise à favoriser la participation effective de la RDC aux activités communes, aux échanges d'informations et aux mécanismes de concertation régionale.
À Kinshasa, les questions liées à la sécurité, à l'identité, à l'autonomisation des femmes ainsi que des filles ont été au centre d'une journée de réflexion mardi. Il s'agit d'une initiative des femmes de trois structures publiques, de l'inspection générale de la territoriale, de l'Office national d'identification de la population ONIP et de l'École nationale de la territoriale. Tout ceci sous le patronage du vice-premier ministre de l'Intérieur. Cette rencontre visait à proposer des solutions concrètes pour garantir les droits fondamentaux des femmes dans un contexte de réforme territoriale. Les participantes ont insisté sur la nécessité de renforcer la protection, d'améliorer l'accès à l'identification et de promouvoir la formation comme levier d'émancipation. L'essentiel de cette journée avec Nancy Tambo.
Au cours de cette rencontre, plusieurs personnalités ont pris la parole pour partager leurs analyses et proposer des pistes de solutions. Madame Evelyne Kikangala de l'ONIP, co-organisatrice de la journée de réflexion, a expliqué le sens de cette activité, insistant sur l'identification des femmes pour leur autonomisation et leur sécurité.
Cette activité, nous avons co-organisée avec trois institutions du ministère de l'Intérieur. Nous avons voulu parler de l'identité parce que nous sommes de l'ONIP. L'ONIP, c'est l'Office national d'identification de la population. Sans une identité légale, la femme ne peut pas se développer parce qu'elle ne peut pas accéder aux services publics, aux soins de santé.
Madame Rose Magwamboa, représentante de la ministre du Genre, a pour sa part évoqué les défis persistants dans la promotion et la protection des droits de femmes.
Les défis sont énormes. Le premier défi, c'est le défi du financement. Le gouvernement est en train de se battre avec ce partenaire, le PTF, pour trouver le financement afin de relever les défis qui sont d'abord sécuritaires, environnementaux, communautaires.
La rencontre s'est clôturée par une séance de questions-réponses mettant en évidence l'engagement des participantes à faire des droits de femmes une réalité sur toute l'étendue des territoires nationaux.
Santé. Nous sommes au Maniema où 4 cas de poliomyélite ont été enregistrés cette année en zone de santé de Kasungu, ce qui ramène à 10 le nombre de cas dans cette province. Pour lutter contre cette maladie qui rend infirme à vie, une campagne de vaccination de 3 jours est en cours depuis hier mercredi. Elle a été lancée par le ministre provincial de la Santé. Son but est de vacciner 600 000 enfants de 0 à 59 mois dans les 18 zones de santé du Maniema. Les autorités provinciales exhortent les parents à faire vacciner leurs enfants car selon les autorités sanitaires, un enfant atteint de poliomyélite peut à lui seul contaminer près de 200 autres. Florence Kizalunga signe ce reportage.
Appuyé par tous les partenaires techniques et financiers, cette campagne a été lancée au petit marché de Kabolongo par la bourgmestre de Kasuku dans la zone de santé de Kindu. Fatouma Kalonda appelle le parent au sens de responsabilité.
Je demande à tous les parents de faire vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois. Nous voulons lutter contre la poliomyélite dans notre province. Même si vous allez au marché, vous allez au travail, laissez les enfants même chez les voisins pour les faire vacciner.
De faire vacciner ses enfants, cette femme remercie les autorités de les avoir rapprochés des vaccinateurs.
Je suis très heureuse de faire vacciner mes enfants pour les éviter la poliomyélite. On allait chercher les vaccins, mais aujourd'hui, ils viennent à nos maisons, nous disons merci.
Les médecins chefs des zones de Kindu promettent de bien faire le suivi pour que tous les enfants ciblés soient correctement vaccinés. Docteur Saleh Farahani.
Vraiment, nous, en tant que la zone, nous allons nous assumer. Ce que nous allons faire, c'est de fournir les efforts afin que tous les enfants de 0 à 59 mois soient correctement vaccinés.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kinshasa, faire piler des feuilles de manioc communément appelées pondu à l'aide des machines motorisées est une pratique courante chez les femmes. Dans plusieurs marchés de la capitale, cette méthode remplace progressivement le mortier et le pilon traditionnel. Mais si ces machines séduisent par leur rapidité, elles soulèvent néanmoins une question essentielle, celle de l'hygiène. Nous faisons les points avec Sephora Mpaka.
Au marché Rail de Lingwala, les bruits de moteur ne s'arrêtent pas. Les femmes arrivent tour à tour avec leurs feuilles de manioc, confiées à de jeunes travailleurs qui proposent le broyage à l'aide de machines, généralement composées d'un mortier ou d'un seau muni d'une hélice. Ces machines réduisent en miettes le pondu en quelques minutes seulement, offrant une texture adaptée au goût de la clientèle. Un jeune travailleur explique.
Piler le pondu dans les mortiers, c'est du retard. Avec la machine, c'est rapide, surtout lorsque les gens ont faim. Nous recevons les clientes de 6h à 18h. Nos mesures varient entre 1000 et 1500 francs.
Mais derrière cette efficacité, une inquiétude demeure. Maman Mireille, femme au foyer.
Je pile mon pondu dans le mortier car leurs machines ne sont pas toujours bien nettoyées. Les femmes doivent être fortes. Savoir piler les feuilles de manioc comme elles font les autres travaux ménagers, nettoyer les habits ou bien puiser de l'eau. Tout est question de volonté.
Pour sa part, Dr Diorsi Lubata attire l'attention de consommateurs car les risques de contamination sont réels.
Les conditions dans lesquelles ces machines sont utilisées peuvent exposer la population à des risques sanitaires non négligeables. Ces machines ne sont pas correctement nettoyées entre des utilisations. Elles peuvent donc contenir des résidus d'aliments, des microbes, voire des agents pathogènes. Cette situation favorise ce que nous appelons en médecine une contamination croisée.
Entre tradition et progrès, le pondu continue de gagner du terrain.
En Ituri, comme dans plusieurs provinces, actuellement, de plus en plus de jeunes entrepreneurs, souvent avec peu de moyens, se tournent vers le commerce en ligne, une activité qui offre plusieurs avantages, notamment la rapidité, le faible coût et la possibilité d'atteindre un grand nombre de clients en peu de temps. Pour ces jeunes, le e-commerce constitue aussi une alternative au chômage et un moyen de s'éloigner de certaines dérives sociales. Reportage de Laetitia Viacuno depuis Bounia.
À Bounia, comme dans d'autres localités de l'Ituri, de nombreux jeunes, en particulier des filles, utilisent les réseaux sociaux pour lutter contre l'oisiveté et le chômage en vendant divers produits. Sur leur statut, elles exposent chaussures, vêtements, montres, perruques ou encore produits de maquillage. Les téléphones portables deviennent ainsi une véritable boutique virtuelle. Elles proposent des articles pour femmes, hommes et enfants de différentes marques et tailles. Selon ces jeunes filles et femmes, la vente en ligne présente plusieurs avantages, notamment l'absence des taxes formelles et la réduction des risques de cambriolage.
Ça m'évite vraiment les différentes taxes. Je n'ai pas vraiment des espaces parce qu'une fois tu publies tes histoires, il y a des personnes qui aiment et puis qui passent la commande. Et
pendant cette activité n'est pas sans difficulté. Parmi les principaux défis figurent les risques d'arnaque de la part de certains fournisseurs, notamment étrangers. Certains clients, de leur côté, se plaignent de la qualité des produits ou des tailles qui ne correspondent pas à leurs attentes et refusent parfois d'honorer leurs engagements. Par ailleurs, certains vendeurs en ligne ne disposent même pas de capital de départ. Ils s'approvisionnent directement dans les boutiques ou magasins après avoir trouvé un client et perçoivent une commission sur chaque vente réalisée. Bounia, Laetitia Viacuno, Radio Okapi.
La ville de Kinshasa va accueillir au mois de juillet prochain l'université d'été, un colloque international réunissant des jeunes venus de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique autour des questions des droits de l'homme. Le gouvernement congolais se prépare déjà pour la réussite de ce forum qu'organise le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. À l'issue d'un échange mercredi à Kinshasa avec le ministre des Droits humains Samuel Mbemba, le chef adjoint de la coordination de la sécurité du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Claudio Cortanza, a salué l'implication des autorités congolaises dans l'organisation de ces assises. Ces propos recueillis par Blaise Ndongala.
C'était une réunion dans le cadre de l'organisation de l'université d'été. On a discuté de questions d'organisation, logistique, sûreté. On a échangé sur différents sujets dans le cadre de la collaboration avec les autorités du pays hôte. Alors c'est une activité qui va, dont le but en fait c'est de ramener des jeunes pour avoir un forum de discussion sur des sujets liés aux droits de l'homme. Et les questions qui ont été discutées, c'est des questions concernant l'organisation, la logistique, la sûreté. C'est dans le cadre d'une mission qu'on fait pour la préparation de ces événements. On a compris qu'il y a une volonté politique forte pour l'organisation de cet événement. Et il y a le soutien du gouvernement pour prendre en charge les participants. Donc il y a, comment dire, un investissement fort du gouvernement.
Le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe a pour mission de promouvoir le dialogue et la solidarité entre les jeunes de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Actualité internationale.
Plusieurs centaines d'ouvriers ont manifesté mardi dans la capitale haïtienne pour réclamer une augmentation du salaire minimum alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole. AfricaNews.fr qui rapporte affirme que les employés du parc industriel métropolitain connu sous le nom de Sonapi se sont rassemblés pour le deuxième jour d'affilée dans les rues de Port-au-Prince pour crier leur colère. Quand on a faim, on ne plaisante pas, on scandait les manifestants. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a provoqué une flambée de prix du pétrole en Haïti. Le gouvernement haïtien a augmenté le prix du diesel de 37% et ceux de l'essence de 29% au début du mois.
L'invité.
30 morts dont des femmes et des enfants, une dizaine de rescapés et d'importants dégâts matériels. Bilan du naufrage d'une embarcation motorisée lundi dernier sur le lac Tanganyika, à quelques kilomètres de la ville de Kalemie. La problématique des naufrages en République démocratique du Congo a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais et d'hier. On les écoute au micro de Guy Maté.
Emmanuel Mukundi, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, vous êtes député national et cadre du regroupement politique de l'opposition Avançons, un regroupement politique proche du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous êtes élu de Nyunju dans la province du Tanganyika. Comment vous réagissez à ces naufrages qui viennent de se produire sur le lac Tanganyika au niveau des Kalemie?
Mais pourquoi? Ça, c'est la question qui est posée. En fait, c'est clair, c'est l'absence d'une politique générale de protection de la population. Et particulièrement, c'est l'absence, des cas échéants, des politiques de transport et des moyens de communication. On sait le voir avec l'absence des politiques de sociétés structurées de transport. Nous n'avons pas de sociétés de transport. Hier, on pouvait se déplacer par train sans problème. On pouvait se déplacer par de grands bateaux sans problème. On pouvait se déplacer par bus. Et les cas qui viennent d'arriver dans le Tanganyika Académie particulièrement, ces villages-là n'ont pas de port. Ce sont des ports de fortune. D'habitude ou dans le temps, ces villages-là approvisionnaient la ville d'Académie. Par la route, ce n'est pas loin. C'est le fait qu'il n'y a pas de route. Alors, les gens se débrouillent de leur manière. Autre chose, c'est l'absence des politiques d'entretien de ce qui existe ou de l'existant. On ne balise pas. Les lacs Tanganyika, un grand lac comme celui-là, les gens naviguent sans balisage. Et donc, on le fait de manière naturelle. Il n'y a pas de dragage. Autre chose, c'est l'absence des politiques de prévention. Il n'y a pas de politique de prévention. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, ce sont des moyens de fortune. Normalement, de telles pirogues ne pouvaient pas transporter les gens et transporter beaucoup de bagages. Alors, mais puisque l'État n'a aucune autre politique pour pouvoir protéger la population, et la population se débrouille, voilà les conséquences.
Merci. Vale Manga, président honoraire de la Commission nationale de la prévention routière CNPR en sigle, expert en transport multimodal. Et comment vous également, vous analysez cette problématique des naufrages en RDC?
Le problème d'organisation au niveau du secteur de transport va, bien sûr, nous amener à pouvoir, n'est-ce pas, mieux nous organiser pour que la politique même du secteur de transport soit mise à marche. Donc, tout ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les naufrages, bien sûr, on en a déjà parlé. Il faut nécessairement qu'il y ait un plan national de transport. Sur ce plan-là, que nous aurons tous ces détails ayant trait au transport multimodal, c'est-à-dire le transport aérien, le transport maritime, le transport fluvial, lacustre. Comment voulez-vous qu'il y ait autant de naufrages dans plusieurs axes ayant trait au transport liquide? Donc, la politique de transport dans le secteur de transport n'est pas vraiment mise en application.
Merci, Mac Gardi Diana, journaliste et éditeur des médias lefranc-tireur.net et Baptiste Afrique. Vous êtes également analyste indépendant. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre dans l'immédiat pour prévenir ces accidents?
La première des solutions pour résoudre ce problème, c'est pouvoir investir suffisamment dans ce secteur. Je me rappelle qu'on nous parlait ici, malheureusement, on ne parlait que de bateaux de pêche. On a comme l'impression que quand on parle de transport dans ce secteur-là, on est beaucoup trop tourné vers la pêche, le côté industriel de la réalité. Mais c'est un vrai secteur de transport qui permet la connectivité des différents territoires, des différents pôles de développement. Et je crois que si l'on ne prend pas conscience de cette réalité-là, il nous est difficile de pouvoir réfléchir convenablement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'État congolais manquerait de moyens. Je me rappelle, 2017-2018, on a rétabli ITB Kokolo. La question, c'est que où en sommes-nous aujourd'hui? On est rattrapé par nos problèmes d'autrefois. Aujourd'hui, on parle souvent de Chani Metal. Quelle est sa spécificité? On a un espace avec une technicité de gens capables de pouvoir répondre à un besoin sur place. Mais encore une fois de plus, on a une vision très limitée. C'est presque aujourd'hui une société en faillite, alors qu'on devrait se reposer sur cette société, à défaut d'avoir un secteur attrayant qui permettrait aux différents investisseurs privés de pouvoir venir investir dans ce secteur, l'État congolais devrait faire œuvre utile de la plupart de moyens à sa disposition.
Je rappelle que vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Il a été préparé par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Pierre Liesinois. Excellente journée à toutes et à tous.